Bonjour, vous écoutez le flux WFMR, le service mondial de radio FMR. Nous allons prendre l'antenne sur les 89.1 MHz à Toulouse d'ici 2 minutes. Et donc, nous sommes le samedi 12 février 2005. Patientez encore un petit peu avant le début des programmes avec Supplément Week-end. Bonjour, vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. Enchanté et bienvenue de vous revoir. Ben, c'est Xavier avec vous en direct jusqu'à 13h et des pelures pour Supplément Week-end. Le bip sonore qui est un peu débordé. Ben oui, ça arrive comme ça. Thomas n'est pas là, mais en tout cas, du sport sera là. Et en plus, il prendra la suite jusqu'à 13h. En attendant, profitez-en.
Fly.
peut-être pas le dernier Chaz, mais en tout cas ils ont sorti un album tout récemment, donc du coup je me suis dit on va ressortir un vieil album. Il s'agit de l'album donc In the Night qui est sorti en 2001, et le titre ça fait, bah, c'est le titre de l'album en fait, In the Light. Xavier avec vous donc jusqu'à 13h et des pelures donc sans Thomas cette fois-ci pour ce supplément week-end sur Radio FMR. Et tant qu'on y est, ben tiens, on va présenter la suite des programmes. Donc les magazines avec le supplément week-end, BD et télévision, surtout cette semaine. Du sport pour le cahier sportif, évidemment, ça c'est du sport, à part jusqu'à 15h, excusez-moi. Il y a qu'à rouler, ça c'est du mix, on enchaînera donc avec du reggae, 17h vie d'ordure, du punk, allons-y franco, 18h30, le magazine des Bac plus 5 et des ouvriers prolétariens, Clark Nova bien sûr, magazine de gauche, à ce qui paraît pas assez à gauche selon certains, ça tombe mal, on a reçu un petit papier rose du CSA. Il va falloir qu'on fasse bientôt un magazine justement de droite, donc méfiez-vous, ça va pas durer longtemps. 20h, la Stétéro Experience, c'est les, et je salue d'ailleurs Fabrice. 21h30, Liquid Sky, on revient avec de la musique un peu moins barrée, donc avec de l'électro. Et à 23h, Breakbeat Experience avec Peyo, Red Eye et toute l'équipe pour la drum and bass jusqu'à... Oula, en tout cas, je sais pas s'ils tiendront jusqu'à 5h du mat, on verra. Dans le supplément week-end cette semaine, et bien évidemment on va continuer le débrief du festival de la bande dessinée qui a eu lieu donc il y a 15 jours dans la ville d'Angoulême pour la 32e édition. Donc on vous a déjà dit que c'était Wolinski qui a eu le grand prix, on vous a déjà expliqué un peu le côté intéressant, c'est-à-dire les découvertes avec donc l'interview de Vanida que l'on avait auparavant vu dans l'espace fanzine et qui s'est retrouvée donc maintenant éditée et bien promise à une belle carrière d'auteur, de dessinatrice, ça on verra, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi l'occasion pour des jeunes de rencontrer des éditeurs, d'essayer de voir si leurs planches sont intéressantes, etc. L'occasion pour les professionnels, qu'ils soient libraires, qu'ils soient éditeurs, qu'ils soient journalistes, ou même qu'ils soient fabricants de produits dérivés ou bouquinistes, de se tenir au courant. Et notamment parmi les cancans qui ont fait, je vais dire, les choux gras cette année à Angoulême, il y a eu le fameux rachat des éditeurs Dupuis par leur ennemi historique, donc à savoir le groupe Dargaud. Plus exactement, Dargaud, pas directement, puisque c'est l'actionnaire principal de Dargaud, qui s'appelle Media Participation, qui avait déjà racheté Le Lombard, qui était le distributeur de Dargaud en Belgique, tout comme Dargaud distribuait Le Lombard en France. Qui a eu l'occasion, suite à une levée de fonds pour le rachat d'un groupe qui n'a pas eu lieu finalement, et ça c'est un autre propos, ils se sont dit allons-y, on va faire l'impossible, on va faire l'impensable, on va racheter Dupuis. C'est-à-dire que ceux qui éditaient Tintin et Pilote ont racheté Spirou. C'est un peu l'union sacrée des trois frères et demi, si je peux dire, c'est-à-dire ceux qui se sont battus dans les années 60-70. Tout d'un coup, le groupe Dargaud, qui a commencé dans la bande dessinée en rachetant le magazine Pilote en 1960-1961, qui n'allait plus très bien, qui s'était un petit peu essoufflé dans ses deux premières années, et qui en a fait le succès que l'on sait avec la sortie des albums, que cela soit Astérix, que cela soit Les Chevaliers du Ciel, et toutes les séries qui en sont afférentes. Évidemment, ça a énormément jasé, savoir est-ce qu'il va avoir des économies, comment va devenir la politique vis-à-vis des auteurs, puisque maintenant, la bande dessinée, quand même, c'est un art qui est fait par des artistes qui passent une année parfois pour faire un album. Ça, c'est la moyenne, du moins en France. Et donc, comment vont continuer leurs relations vis-à-vis de leurs éditeurs respectifs, plus ces intimités, évidemment, personnelles entre Dargaud, Dupuis, etc. Qu'est-ce que cela va devenir. moi, je me suis dit, peut-être l'occasion dans ce cas-là d'interviewer donc François Lebescon, qu'on a déjà eu d'ailleurs sur cette antenne, il me semble, il y a bien 6 ou 7 ans, pour un volet économique, là aussi, et lui dire, ben, on va lui poser des questions qui dérangent, des questions bien stupides, comme ça il va baisser la garde, il va peut-être lâcher quelques infos, on va voir ça. En fait, non, il a pas lâché la garde, il a joué le jeu jusqu'au bout. Malheureusement, j'étais un petit peu énervé, entre guillemets. On vous avait dit donc que la grève des trains avait fortement impacté sur la venue des auteurs lors du festival d'Angoulême, qu'il a fallu galoper. Lui aussi, il avait un planning qui était assez serré. Et donc, on s'est rencontrés vraiment sur le coup, par hasard, par un coup de fil. Et vive les portables quand même pour ce genre de salon professionnel. Et donc... j'ai eu le plaisir de poser les questions que que l'association Les Critiques de Bande Dessinée avait déjà posé certaines d'entre elles au syndicat national des éditeurs, mais n'avait pas réussi à avoir exactement les réponses qu'on aurait aimé vraiment connaître, c'est-à-dire un peu le dessous des cartes. Là, on a réussi à le faire en faisant baisser la garde à François Lebescon, donc qui est directeur éditorial de Dargo, c'est-à-dire qui s'occupe en fait de faire les découvertes des séries, de cadrer les sorties des séries, éventuellement faire le calendrier. François Lebescon aussi a une activité éditoriale, une activité de critique, puisqu'il avait notamment participé à l'aventure du magazine La Lettre de Dargo, qui malheureusement a disparu. Et il n'y a pas que ça, c'est aussi quelqu'un, vous allez voir, d'assez charmant et qui a beaucoup d'humour. François Lebescon, bonjour.
Bonjour.
Donc tu es l'un des directeurs éditoriaux du Lombard et tu n'as pas de bol, tu m'as posé deux fois un lapin, mais moi, la proie, je la guette, je me mets dans les fourrés, in the fourré, monsieur, and I look at it, and I shoot it, with my question very very aiguë. Donc tu n'as pas de bol.
Alors d'abord, je ne suis pas au Lombard, mais je suis aux éditions Dargo.
Je me suis planté, c'est pas bon.
C'est la même boutique, mais voilà, Dargo.
Effectivement, c'est la même boutique puisque Média Participation donc est l'actionnaire de référence de Dargo, maintenant du Lombard. Dargo a aussi une filiale multiple, il y a aussi bien Xilam qui s'occupe de l'animation. Il y a les éditions Kana qui s'occupent principalement du manga et maintenant Média Participation a racheté Dupuis. Alors ça fait quoi ? Business as usual ?
Oh non, mais business, c'est un mot presque tabou chez nous. Non, c'est surtout à l'éditorial, c'est vraiment quelque chose qu'on n'utilise pas en tout cas comme terme. Non, simplement, effectivement, Dupuis a rejoint le groupe Média Participation.
Ça fait quoi ? Attends, Dargo qui rachète Dupuis, l'éditeur de Pilote qui rachète Spirou, c'est quoi ? C'est une vengeance, un plaisir, ça a crié, il y a eu plus que du champagne qui a pété, on y est allé franc-jeu.
C'est amusant parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit c'est les meilleurs ennemis du monde qui se retrouvent dans la même maison. Quoi. C'est ça, c'est une histoire ancienne d'Argo Dupuis, ça résume l'histoire de la BD franco-belge. Et maintenant, on est plutôt amis qu'ennemis, et même si chacun garde son autonomie.
Ça fait plaisir à Casterman, ça, l'histoire et tout ça. Enfin bon, le fait que les laïcs soient rachetés par les cathos, puisque Média Participation, soi-disant, il y avait une histoire comme quoi c'était une famille catholique, et c'est vrai que Dupuis c'était des laïcs à la base. La même chose pour les éditions Milan qui étaient des laïcs et qui se sont fait racheter par Bayard, qui était spécialiste de la bande dessinée jeunesse distribuée dans les églises. Par hasard, c'est un mouvement général ou c'est un hasard pur et complet ?
Je sais pas, moi, à mon petit niveau, je vois même pas de quoi tu parles. C'est-à-dire catholique, je sais pas, moi je fais des albums de bande dessinée avec des auteurs.
Non mais attends, vous vendez 13, c'est normal qu'à côté je fasse la théorie de la conspiration.
Oui mais théorie de conspiration, il n'y a pas de théorie de conspiration, il n'y a pas de choses de complot catholique, il n'y a rien de tout ça. Je crois que c'est vraiment tout simplement un éditeur de bande dessinée. Et point. Et donc, on fait des albums de bande dessinée avec des auteurs de bande dessinée. C'est la seule préoccupation de Dargo aujourd'hui.
Alors, dans ce cas-là, on va parler de l'éditorial. Actuellement, on en est à 2000 nouveautés qui sortent par an sur le marché français. C'est les derniers chiffres qui sont sortis donc de l'association Les Critiques de la Bande Dessinée qui ont été compilés par Gilles Ratier. 2000 nouveautés par an. À partir de là, quelle stratégie éditoriale on peut avoir ? C'est ce que l'on appelle une croissance externe, c'est-à-dire occuper encore plus le marché point de vue sortie ou se dire quand même là, il y a un souci.
C'est exactement la dernière réflexion. Il y a à nos yeux un souci général, c'est-à-dire qu'il y a trop d'albums qui arrivent sur le marché. Donc il y a des albums qui sont entre guillemets mort-nés, qui n'ont pas le temps de faire leur place, surtout les nouveaux auteurs, les nouvelles séries. Et donc nous, on continue à faire ce qu'on prône depuis déjà quelques temps, c'est-à-dire plutôt peu et plutôt bien, en tout cas on essaie. C'est-à-dire qu'on veut surtout pas noyer les libraires de nouveautés, ils savent plus où les mettre.
Pourtant apparemment Dupuis vient d'augmenter justement le nombre de nouveautés qui vont sortir pour les programmes à venir.
Oui, mais ça correspondait à quelque chose, l'édition c'est assez à long terme, donc c'est quelque chose qu'ils ont commencé à enclencher il y a déjà quelques temps et qui correspond surtout à un virage. C'est-à-dire que Dupuis, on l'associait Dupuis à la bande dessinée, tout public, humour, etc. Aujourd'hui c'est aussi beaucoup de, c'est un catalogue ado-adulte qui se développe et ça correspond à une volonté je ne veux pas répondre à leur place, mais en tout cas de diversifier leur catalogue et d'être plus présent sur ce secteur-là. Mais c'est pas non plus une explosion en nombre de titres, hein, c'est quand même pas ça.
Enfin, quand même, 40% de part de marché sur le secteur de la bande dessinée. Et que fait la Commission européenne ?
On peut estimer à peu près ce chiffre-là. C'est peut-être un peu moins en France, un peu plus en Belgique. C'est sensiblement effectivement ça, mais c'est surtout des maisons d'édition en fait qui restent très très différentes finalement, très complémentaires aussi. C'est-à-dire que chacun a sa culture, la culture de Dargaud elle est pas celle du Lombard, elle est pas celle de Dupuis, et chacun garde son identité, et ça c'est vraiment l'essentiel.
Alors on parlait de l'inflation des titres, on est passé d'un tirage moyen de 14 000 exemplaires, je parle d'un tirage, c'est-à-dire même pas des ventes, hein. Tirage moyen de 14 000, c'est tombé à 10 000. À ce stade, est-ce que les auteurs vont pouvoir continuer à en vivre ?
Les auteurs et les éditeurs, parce que c'est pareil, c'est qu'effectivement plus le tirage moyen, donc les ventes moyennes baissent, plus c'est compliqué pour tout le monde. Et en plus, il y a de plus en plus d'éditeurs et de plus en plus d'auteurs qui arrivent. C'est mécanique, c'est des mathématiques. Donc, ça veut dire qu'effectivement, là aussi, on tire la sonnette d'alarme en disant « Attention, calmons-nous, n'envahissons pas le marché, ne produisons pas à tour de bras, parce qu'à un moment donné, il y aura un effet boomerang, c'est évident. »
D'accord. Et puisqu'on en est justement sur le côté social de la chose, des économies d'échelle, des suppressions de postes en doublon, puisque vous avez commencé, je crois, au niveau des forces de vente et des commerciaux. Donc, est-ce qu'il y a déjà un début de regroupement de certains services qui est annoncé ?
Alors l'essentiel, et là ça m'intéresse au premier chef, puisque étant éditeur, l'essentiel c'est que l'éditorial reste indépendant et complètement séparé. Chaque maison d'édition a sa direction éditoriale propre. En revanche, c'est évident que dans notre intérêt et aussi celui des auteurs, notamment pour la diffusion, on va regrouper un certain nombre de choses, et plus tard sans doute de la distribution, c'est-à-dire que les catalogues seront défendus au niveau marketing, au niveau diffusion, au niveau droits dérivés, avec les mêmes personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des tels licenciements, même il y aura même des recrutements, pour tout dire, donc pour renforcer les équipes. Et ça, c'est au bénéfice de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire chez chacun, et on va utiliser au mieux ce savoir-faire.
Est-ce qu'il va y avoir d'un autre côté du chômage, c'est-à-dire des héros sans emploi ou des liquidations de fin de série ?
Alors non, l'arrivée Dupuis, de toute façon, n'a aucun lien avec tout ça. Il y a naturellement, c'est un cycle naturel de vie, c'est-à-dire qu'il y a des séries qui s'arrêtent depuis toujours, parce que c'était prévu ou parce qu'à un moment donné, ça ne marche vraiment pas. Mais en tout cas, il n'y a aucun corollaire avec l'arrivée Dupuis dans la boutique.
Économie fiction maintenant pour nos amis qui aiment regarder Bloomberg TV. Supposons que Media Participation rentre en bourse et fait une augmentation de capital pour continuer justement son développement, se développe en dehors de l'Europe ou sur d'autres créneaux. Et un fonds de pension californien décide de rentrer dans le capital avec une participation significative et disent désormais on veut des chiffres trimestriels, on veut un résultat avec une progression garantie tous les trimestres. Qu'est-ce qu'on fait ?
Ça, c'est Claude de Saint-Saëns qui peut répondre, parce que c'est lui le directeur général. Mais je peux quand même dire que c'est tout simplement pas du tout à l'ordre du jour. Donc voilà.
Superbe exemple de langue de bois. François Lebet.
C'est très clair. C'est pas du tout prévu, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc voilà.
D'accord. François Lebescon, merci pour cette interview sans queue ni tête, mais fallait parler un peu du côté économique de la BD.
Merci Xavier.
Voilà, et c'est un personnage qui est assez intéressant justement de ce côté-là en tant que témoin, en partie parce qu'il a été recruté à l'époque où Dargaud n'avait pas encore perdu le catalogue Astérix suite à un procès contre Uderzo, où Uderzo a pu récupérer l'intégralité de la série Astérix. Donc à l'époque, Dargaud représentait 40% de son chiffre d'affaires qui était représenté uniquement par la série Astérix. Et après, il m'a confié à micro fermé que par rapport justement à 97 où tout le monde disait Dargaud est mort, c'est fini, comment peuvent-ils financer encore un catalogue quand ils ont perdu leur rente? Et là, ils m'ont dit finalement Uderzo, on lui dit merci parce que il nous a réveillés. Avec Astérix, quand les commerciaux débarquaient dans n'importe quelle librairie, ils étaient les rois du pétrole. Tu m'étonnes. Avec le chiffre d'affaires que représentait Astérix à l'époque. Finalement, ils ont renouvelé toute leur gamme. Ils sont diversifiés. Ils ont racheté en plus les droits sur Black et Mortimer, qui maintenant fait jeu égal avec Astérix, en niveau de sortie. C'est-à-dire, ils l'ont complètement renouvelé. Bref, ils se sont littéralement réveillés et c'est devenu un géant de l'édition en France et en Europe. Les filiales audiovisuelles, elles, vont être recentrées puisque Dupuis avait ses propres filiales, mais Dargaud donc a quand même s'est très très bien installé dans le secteur. Et d'un autre côté, point de vue distribution, Dargaud va gagner en plus les éditions Fleurus et les guides Michelin en plus du catalogue Dupuis, c'est-à-dire qu'ils vont énormément gagner. Par contre, tous les représentants de commerce qui font le tour des librairies, eux, vont rester distincts. C'est normal, puisque un représentant de commerce, si jamais il débarque pour montrer ses sorties trimestrielles, il passe quasiment la journée complète par librairie s'il doit présenter Dargaud et Dupuis et le Lombard. Chacun a sa place et c'est tant mieux. Bref, François Lebescon, je lui dis merci et en tout cas, il avait largement le sourire et je crois qu'il avait raison. Oh, baby. Puisqu'on parlait de levée de fonds, où c'est que t'as mis le pognon? All the pretty girls in the world, and the ugly girls too. But to me, you're pretty anyway, baby. You give me your number, I call you up. You act like your pussy on interrupt. I don't have no trouble with you fucking me, but I have a little problem with you not fucking me. Baby, you know I'ma take care of you, cause you say you got my baby and I know it ain't true. Is it a good thing? No, it's bad, bitch. For good or worse, makes you switch. So I walk on over with my crystal. Bitches, niggas, put away your pistol. Dirty won't be having it in this house, cause bitch, I'll cripple your style. Now that you heard my charming voice, you couldn't get another nigga. Your coochie won't get moist. If you wanna look good and not be bummy, yo, you better give me that money. Baby, I got your money, don't you worry. I said, hey, baby, I got your money. Hey, dirty. Baby, I got your money, don't you worry. I said, hey, baby, I got your money. Yo, so I glanced at the girl glanced at me. I whispered in the air, you wanna be with me? You wanna look pretty though in my video? Oh, dirty on the hat, and I let you all know. Just dance if you caught up in the Holy Ghost trance. If you stop, I'ma put them killer ants in your pants. I'm the ODB, as you can see. FBI, don't you be watching me. I don't want no problems, cause I put you down in the ground where you cannot be found. I'm just a dog trying to make somebody. So give me my streaks and give me my honey. Radios play this all day, every day. Recognize I'm a fool and you love me. None of you know, better look at me funny. You know my name down, give me my money.
Hey, dirty.
Sing it.
Baby, I got your money.
Sing it, girls.
I said, hey.
Just sing it right now.
Baby, I got your money.
If dirty one is hey, money, I think y'all should give him his money.
Baby, I got your
that's
money.
How I like don't you, girl.
Like this all night. Bitches, put your ass out, let me hold it tight. You're looking at my wrist saying, this so nice. The price, bitch, is diamond shining disco line. You better help me solve my problem. I'ma get this money and rob them. Lucky dog when I won the lotto. Ran up on my car, I'm carrying Rollo. But hold on, you can call me dirty and then lift up your skirt. And you want some of this dirty. God made dirt and dirt bust your ass. Stop annoying me, yeah, play my music loud. And take the bats of old dirty to move the crowd. This
taught me that back of the
but
house.
But give him a money.
DT Bastard, extrait de l'album Nigga Please, qui était l'album à mon avis le plus connu qui ait fait Get Your Money, avec une certaine Kedis qui depuis a fait un joli petit succès, et Old DT Bastard qui malheureusement est décédé. À mon avis, c'est pas de vieillesse, c'était en octobre dernier. Enfin bon, je vous le fais, passe les détails sordides sur ce drogué notoire. Enfin bon, voilà. Ceci dit, puisque on parle de séries qui se terminent chez Dargaud dans le catalogue, il y en a une que j'ai absolument scotché. J'ai acheté tous les albums religieusement pour chaque exemplaire. Il s'agit de Monster de Naoki Urasawa, que l'on connaissait pour 20th Century Boy. Et vraiment, là, c'est une série absolument monstrueuse. Du Sport est en train de s'installer. Et je suis sûr que si je lui passe, lui, il va faire comme moi, c'est-à-dire il va me les piquer et il va vouloir tous les lire. Monster, c'était l'histoire d'un docteur, d'un chirurgien, d'un excellent neurochirurgien japonais, qui s'appelle le docteur Tenma, et qui officie en RFA en 1985. Suite à un immonde massacre qui a lieu chez un transfuge de la RDA, il va sauver la vie d'un gamin. Ce gamin de 5 ans va devenir un tueur froid, absolument sans aucune compassion ou quoi que ce soit, sans aucune humanité. Bref, il va se retrouver dans le rôle du fugitif parce que 10 ans après, il va se rendre compte qui est en train de commettre des meurtres absolument ignobles dans l'Allemagne réunifiée, et on lui fait porter le chapeau. Donc résultat des courses, il est obligé de fuir pour prouver que c'est Johan, ce gamin qui donc est en train de commettre ce massacre. Qui plus est, ce gamin, Johan, est tellement froid, calculateur et avec un sourire tellement angélique qu'il se met dans la poche la mafia de l'extrême droite et tous les mouvements d'extrême droite d'Allemagne. Bref, ça commence à puer très sérieusement. Et en plus, il y a le BKU qui est à la poursuite de Tenma avec l'un de ses meilleurs inspecteurs qui est derrière. Le 18e tome, scène d'apocalypse, excusez-moi, c'est le dernier tome de cet excellent manga donc traduit chez l'éditeur Kana dans la collection Big Kana. Et pour le 18e tome, pour la première édition, ils ont fait un petit bonus absolument génial. Je l'ai pas ici et c'est bien dommage. C'est un livre pour enfants. C'est le livre pour enfants dont il est question au tout début, qui est censé avoir inspiré Johan en tant que assassin. C'est un condensé à la fois d'une excellente série allemande et d'un manga vraiment très bien foutu et un one movie à l'américaine. Bref, c'est vraiment une histoire complète absolument géniale. Le 18e tome, le final, est littéralement stupéfiant. Et en plus, il semblerait que l'histoire ne soit pas complètement finie puisque on nous promet d'avoir une suite. Et c'est pas un mal. Ceci dit, le grand jeu que l'on compte tous les lecteurs de cette série, c'est de savoir quels acteurs allemands pourraient jouer dans une série en live de cette histoire, parce que ça pourrait être véritablement une série policière au long cours absolument magnifique. Monster donc qui s'est terminé au Japon, mais il y a une suite qui s'appelle Another Monster qui est en cours de parution. On espère la voir en France parce que c'est véritablement une claque monstrueuse. Moi, je vous le conseille. Si vous n'avez pas suivi, reprenez-le, ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes titillé, justement, si vous voulez vraiment découvrir un polar absolument génial, c'est l'occasion ou jamais. Monster, il y a 18 tomes, mais il les valent et ça se laisse lire. Mais alors, toute lumière allumée, comme dirait Alfred Hitchcock, parce que c'est véritablement terrifiant. C'est une très très bonne série, très bien traduite. En plus, Naoki Urasawa se fait un plaisir de très très bien reconstituer dans son dessin l'Allemagne, mais aussi la Tchécoslovaquie, et ça, je vous en laisserai la surprise. Vous écoutez Radio FMR, midi 29 minutes et 15 secondes, c'est Supplément Week-end. Oui, je sais, c'était pas vraiment la musique de circonstance qu'il fallait pour parler de cette série. Bah tant pis. En attendant, c'est la pub.
Directement inspiré par la guerre du feu de Jean-Jacques Hano, les Angola se soumettent à des règles très strictes. En effet, ils ne sortent de leur caverne brésilienne que pour arpenter le monde affublé de peaux de bêtes. Angola, à voir absolument avant l'hibernation, dimanche 13 février au Havana Café. Angola, un peu de feu dans ce monde qui pèle. Angola, amène ton briquet. 13 février, Havana Café.
C'est n'importe quoi, Rascal, c'est n'importe quoi. Je te ferai rendre gorge, primo, parce qu'André Matos est effectivement brésilien, mais il parle français et c'est quelqu'un de très sympa. Ensuite, il n'est absolument pas en peau de bête sur scène. C'est à voir, parce que c'est du rock harmonique. Là, t'as vraiment pris le morceau qui tape, alors que ce n'est absolument pas représentatif, ses albums. C'est un massacre. Je crois que du sport est aussi plié que moi. C'est la désapprobation, bravo. Voilà, vous êtes sur Radio FMR, on continue dans les sorties avec ben justement, puisqu'on parlait des mouvements de concentration dans la bande dessinée qui ont eu lieu effectivement entre Dupuis et Dargaud, il y en a eu d'autres, notamment Fluide Glacial qui a été racheté par Flammarion, qui a été racheté par le groupe Rizzoli, qui a racheté l'éditeur Casterman. Quand donc cet immense éditeur italien, c'est le premier éditeur justement en Italie, et c'est un groupe qui publie par exemple le quotidien El Corriere della Sera, quand ils ont plongé leur nez dans les comptes de Casterman qui allait pas très bien, ils ont trouvé une activité de presse rotative qui venait de perdre l'unique marché qui leur permettait d'être bénéficiaire, à savoir celui des pages jaunes belges. Et donc ils se sont dit, puisque c'est comme ça, on va secouer les auteurs. Il y en a marre que certains prennent leur temps pour sortir les albums, et on va secouer un peu le cocotier. Et ils sont tombés sur François Bourgeon et Lacroix. Bourgeon, c'est pas n'importe qui, c'est l'auteur des Passagers du Vent et des Compagnons du Crépuscule. Et du coup, ils ont dit, mais attendez, là, le cycle de Sian, vous avez sorti 2 tomes, plus un livre, un guide de cet univers qui a très bien marché. Le 3e tome, là, il sort quand, là? Oui, mais on n'a pas encore commencé à le dessiner, on vit bien de nos albums, c'est vrai, mais d'un autre côté, on a des travaux publicitaires, etc. Bref, ils ont traîné devant les tribunaux. Bourgeon et Lacroix ont perdu, ils ont été condamnés à payer 1000 euros d'astreinte par jour de retard sur la livraison de l'album. Évidemment, ils sont pas laissés faire, ils sont allés en appel, et finalement Casterman et les auteurs ont rompu le contrat. C'est logique, puisque il y avait faute des deux côtés, si je puis dire. Et Bourgeon et Lacroix ont récupéré les droits sur leurs albums, sont allés chez Vent d'Ouest et ont sorti donc le 3e tome. Avec un titre imprononçable, Ayeya Daldal, voilà, je vais y arriver. Donc, chez Vent d'Ouest, c'est le cycle de Sian, donc le 3e tome. C'est toujours de la art science, un petit peu fantasy. L'histoire d'une fille, d'un noble et d'un entrepreneur qui fait bien ses affaires dans la galaxie. Donc, d'un autre côté, le cycle de Sian, à la fin du 2e tome, sur la planète Ilo, avait eu la révélation d'un être mystérieux qui s'appelle le V et qui lui a dit, il existe un système de téléportation qui est utilisé par une entreprise. Ça me gêne un peu parce que moi j'en suis gardien, donc je vais te donner le pouvoir d'utiliser ce système de téléportation. Et suite à une erreur de prononciation, elle se retrouve sur une planète qui s'appelle Aldal, où elle va faire la connaissance d'une espèce de pirate un peu bizarroïque qui s'appelle Ayeya, qui se trouve, comme l'ensemble des habitants de cette planète, vivre extensivement de la récolte, qui en fait profite énormément à une compagnie industrielle, je vous laisse deviner laquelle. Bref, Sian va se mettre plus de raison en fait que de cœur avec Aldal sur son avec Ayeya, excusez-moi, voilà, je vais y arriver, je vais réinverser pour essayer de retrouver l'une des portes qui permettent de rejoindre ce réseau universel de translation pour revenir sur sa planète d'origine.
Oui, mais voilà, Aldal, c'est une planète assez spéciale où, on va dire, des espèces de pirates y vivent. Et en même temps, c'est une planète qui tourne très très lentement sur elle-même. Ce qui fait qu'il y a juste une branche, une frange très très fine sur laquelle on peut survivre. Sinon, on se retrouve pendant une année dans un côté obscur, évidemment, qui est plongé dans un froid éternel, ou qui dure qu'une année, ou sinon sur un côté qui est littéralement frappé par le soleil. Et tous les habitants sont obligés de bouger. On retrouve là Bourgeon et la Croix au meilleur de leur forme, c'est-à-dire la description d'un univers qui est tout à fait cohérent et bien foutu. Bref, c'est littéralement un bonheur. C'est bien fait. En tout cas, moi, je suis complètement fan et je suis content de retrouver cette série qui avait, dont on n'avait pas de nouvelles, sinon judiciaires, depuis 6 ans. Et ça, c'était extrêmement triste. C'est désormais chez Vent d'Ouest. Le cycle de Sian, donc le troisième tome, s'appelle Aïa Daldal, de Bourgeon et la Croix. Si vous aimez la science-fiction un peu dans le style de Aldébaran, c'est-à-dire une science-fiction où les humains n'ont pas vraiment fait la découverte de races extraterrestres complètement disproportionnées et en même temps avec une faune et une flore très très bien décrites, sans être dans le lyrisme, je vais dire, de Valérian et Laureline, ça vaut le coup, c'est pas mal. Et ça peut se lire de manière indépendante, mais je crains que vous soyez perdus si vous commencez direct au troisième tome. Toujours dans la science-fiction. Oups, excusez-moi. Non, non. Je l'ai pas pris. Bon, voilà. Ça... Si, je l'ai pris. Excusez-moi. Les Guerriers du Silence, avec Al Jazeera au dessin, la dessinatrice de Candélabre, Ogaki et Servin, qui ont adapté tous les trois le roman de Pierre Bordage, Les Guerriers du Silence. Le premier tome s'appelle Point Rouge, c'est chez Delcourt. C'est une série, là, un peu plus fantasy, on va dire, où il est question d'une confédération de planètes, qui s'appelle la Confédération de Naflin, où les humains vivent plus ou moins en bon terme avec des races plus ou moins humanoïdes. Mais malheureusement, une de ces races, les Skate, qui viennent de la planète Hypnoneros, c'est quoi ces noms, franchement, tarabiscotés, décident, grâce à des pouvoirs psy qu'ils ont développés en secret, de faire un coup d'état. Or, le problème, c'est qu'il y a une fille qui est de descendance noble, qui a découvert le complot, une superbe Syracusaine, qui va entraîner dans sa quête insensée contre justement ce coup d'état un obscur employé d'une compagnie de voyage qui noie son ennui dans l'alcool sur une planète complètement perdue au bras gauche de la galaxie. Bref, c'est plus fantasy, c'est assez bien foutu. Moi, je ne connais pas le roman de Pierre Bordage et ça, je le regrette un peu. Mais en tout cas, l'univers est très très bien rendu. En plus, Al Jazeera a un superbe dessin. Franchement, c'est un bonheur. Sauf que là, par rapport à Candélabre, elle y met énormément d'éléments fantastiques. Elle est très très bien épaulée, donc avec ses co-dessinateurs et scénaristes. Excusez-moi. C'est Al Jazeera qui a fait le scénario et c'est Philippe Ogaki qui a fait le dessin. Bah voilà, ça s'appelle une baffe. C'est bien dommage, mais en tout cas c'est littéralement superbe, ça vaut le coup d'œil. Et donc c'est chez Delcourt en grand format, ça se laisse agréablement lire dans la collection Néopolis chez Delcourt, Les Guerriers du Silence. Le premier tome s'appelle Point Rouge. Il y a pas mal de choses. Puisqu'on était tout à l'heure dans la confédération dans la galaxie d'Argo, le Lombard, Cana, Dupuis, Covin est l'un des scénaristes qui cartonne énormément avec, entre autres, du sport et de moi, la série sur la guerre de sécession qui fait...
Blueberry.
Non, c'est pas Blueberry, avec... Les tuniques bleues, wow. Voilà. J'ai pas de mémoire des noms, c'est assez agaçant. Sauf que lui, il fait une série à côté qui est assez rigolote, qui s'appelle Les Psys, avec Bédu au dessin. C'est les aventures d'un psy, si je puis dire, où ses patients s'allongent sur le sofa et racontent un peu leurs aventures. C'est pas vraiment, enfin on sait pas si c'est un psy-analyste, un psychiatre ou un psychologue, mais en tout cas c'est assez rigolo, c'est très bien vu. C'est absolument pas technique, mais ça a pleuré de rire. Le dessin est très très beau et en général les situations sont très bien vues. Covin, qui a l'habitude d'écrire couché dans son sofa, là véritablement il s'en est donné à cœur joie et c'est à pleurer de rire. Le psy, le tome 12 s'appelle Je suis moche.
avec une première dauphine en couverture qui désespère d'avoir loupé le prix. Enfin, on imagine qu'elle voulait être Miss France franco-belge, et là, du coup, c'est loupé. C'est bien dommage. Bon, en tout cas, moi, pour moi, c'est un véritable petit bonheur. Ça paie pas de mine, c'est de la vie quotidienne, mais en tout cas, c'est très 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 bien vu. Ouais, une petite pause musicale, le temps que je change d'album avec le dernier album de la traduction. Calvin et Hobbes, le 24e tome, est sorti, c'est le dernier. Cette fois, c'est fini, c'est marqué en couverture. Il y a dedans la dernière aventure de du petit gamin qui s'appelle Calvin, qui vit donc dans une banlieue pavillonnaire quelque part aux États-Unis, et de son tigre en peluche que lui il voit comme étant un terrible tigre mangeur d'hommes, qui adore d'ailleurs les boîtes de thon, c'est dire s'il est dangereux. C'est aux éditions hors collection, c'est Bill Watterson, le dessinateur, qui a décidé d'arrêter. Pourquoi ? Tout simplement parce que son strip comics, ça lui faisait plaisir de le dessiner, donner vie à ce garçon, etc. C'est vrai qu'il tombait un peu à court d'idées par moment, mais bon, ça restait littéralement hilarant, l'univers des parents qui sont complètement débordés, de la babysitter qui se fait littéralement torturer par le gamin, de la maîtresse d'école, Miss Wormwood, qui ne sait pas comment tenir en place cet enfant qui... Il y a que deux choses qui l'intéressent, les dinosaures et les documentaires animaliers, parce qu'à côté c'est que les films de série Z, de série X, tous les films des années 50, de SF, les séries pour enfants qui sont trop violents, qui sont diffusées le matin à la télé, bref, il y a que ça qui lui plaît, et c'est véritablement à pleurer de rire. Là c'est les derniers, avec des petits textes en plus, des petits poèmes, simplement parce qu'il n'y avait pas matière pour en faire un album littéralement complet. Bill Watterson a expliqué en 98 pourquoi il a arrêté. Tout simplement parce que les journaux américains préféraient éditer plutôt qu'une grande planche en couleur le dimanche. Ils ont préféré à mettre de la pub à la place. C'était beaucoup plus rentable. Bref, à la place du service rendu aux lecteurs, ils préféraient mettre de la publicité. C'était l'ère de l'explosion .com. Donc, allons-y, on jette du pognon dans de la pub au taquet. Donc évidemment, c'était beaucoup trop facile, et ça c'est bien dommage. Donc voilà, Calvin et Hobbes, cette fois-ci c'est fini. Si vous étiez fan, tant mieux. Si vous cherchez une série de dessins animés, c'est même pas la peine, parce que Bill Watterson a refusé qu'il y ait un dessin animé, des céréales qui colorent le lait en violet, des t-shirts, des bambins en peluche, etc. qui sortent. Non, il l'a refusé et il n'a pas eu tort. Il a préféré l'intégrité de son personnage pour amener une certaine réflexion vis-à-vis des parents. Enfin, tu parles d'une réflexion.
Bref, les ayants droit sont en train d'attendre qu'ils crèvent.
À mon avis, non. Non, parce que il a gagné suffisamment d'argent. Il a dit, maintenant, je m'occupais de mes gosses. On ne sait pas, hein, on l'a jamais eu en interview. Il a eu que deux interviews, je crois, à ce jour. Et on sait qu'il a entre 0 et 3 gamins. Donc, on n'en sait pas plus. Ferraille, le numéro 28, donc, de nos amis des Requins Marteaux, est sorti. Le Ferraille illustré, numéro 26, donc 7,50€. Journal de Pounipou et Ratafiole. Ce sont des aventures qui sont dans le dos avec un chat et une souris. Sauf que le chat, il est homo, il veut absolument sauter la souris. C'est un peu zarbe. C'est toujours de la très très bonne bande dessinée de qualité, littéralement punk. Bref, on retrouve les Requins Marteaux au plus haut de leur forme. Tant mieux, profitez-en, ça vaut le coup. Et je terminerai avec le Animeland de février, numéro 108, avec en couverture le château déambulant, non le château bougeant, non le château mouvant, non c'est le château ambulant, enfin bref, le dernier Miyazaki qui est sorti. À noter qu'il y a un Takahata, le confrère de Miyazaki, qui est sorti mardi dernier au cinéma, qui est La Petite Peste, qui est en fait un film qui date de 1982, ça on en reparlera la semaine prochaine. Donc Animeland avec un dossier qui devrait plaire, je pense, puisqu'il est intégralement consacré au polar, avec, s'il vous plaît, Edgar le détective cambrioleur, alias Lupin the Third, puisque c'est l'arrière-petit-fils dans l'histoire de Arsène, mais voilà, pour les raisons de droit en France, il a fallu changer le nom. Mais aussi, on découvre la nouvelle vague du manga avec Golgo 13, classique, a été créé par l'auteur de Cobra. Plus évidemment, Cowboy Bebop. On retrouve aussi Plus science-fiction, ben les Pat Labor, Appleseed, Adepolis, mais aussi ben des histoires entre guillemets plus quotidiennes comme le flic à Tokyo, Psychomater Edgy, City Hunter, alias Nicky Larson. Bref, c'est véritablement un petit bonheur à lire. Animeland, donc numéro 108, numéro de février, avec donc un gros dossier consacré au polar, qui est très très bien foutu et n'empêche, bon, voilà quoi, c'est la référence Animeland de ce côté-là. Il n'y a pas à dire. Il ne parle pas que de bande dessinée, il ne parle pas que de séries animées, il parle aussi de séries en live qui passent au Japon, quoique l'interprétation des séries animées au Japon laisse plutôt à désirer. C'est bien triste, mais bon... Voilà, mais aussi ben du polar donc qui passe au cinéma avec quand même des jolies petites merveilles. Et là justement on a parlé de Monster puisqu'il y a eu des rumeurs qui sont sorties sur les sites japonais comme quoi il y aurait un film qui va être tourné. Et d'un autre côté, ben la tradition romanesque du polar au Japon, de littérature traditionnelle, avec plein d'informations à lire, c'est justement une bonne occasion de s'y référencer. Du sport, tu vas y arriver ? Non, ça marche pas. Pas sur le lecteur en bas, là, je crois que ça va être plus simple. Et puis voilà, oui, on a des petits soucis comme d'habitude sur Radio FMR, il veut absolument mettre son disque, c'est bien dommage, ça marche pas à tous les coups. On a des lecteurs qui sont capricieux. Non, fous-le en bas. Hop, tac, voilà. On n'a pas le temps. Zou, lecture. Tu vois, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz. Thomas sera là la semaine prochaine. En attendant, bah, du sport. Donc, va parler de séries télé. Je pense qu'il voulait me mettre un disque d'une manière assez importante.
But whatever I play, it must be reggae. One, two. Make it reggae! Out, everybody! Make it reggae! Out! Make it reggae! Sing it out! Make it reggae!
Enfoiré de bâtard, de lecteur, de tarlouze, de tout ce que tu veux, voilà. Il s'est trompé. Me sauve parce que cette semaine j'avais pas de reprise.
Ah bah voilà.
Donc vas-y, présente ce morceau.
C'est sorti sur la compile les familles et les fameuses compiles Soul Jazz.
Oui.
300% dynamite, c'est celle-ci donc de Randy All Stars. Donc c'est Mission Impossible, hein, on l'a reconnu. La musique de la série télé de Lalo Schifrin, hein, c'est un grand musicien quand même, Lalo Schifrin. Moi je trouve que c'est le meilleur de toute façon, enfin c'est un avis tout à fait personnel. Il est au-dessus de John Williams, tous ces grands. Il est au-dessus, largement au-dessus. Largement.
Et c'est vrai que quand on repense à Busted, le générique de Starsky Hutch, c'est clair que là il nous avait foutu tripette.
Bullet,
puisqu'on parlait de Animeland, d'ailleurs je te le confie si tu veux lire la partie polar qui je pense devrait pouvoir t'intéresser. Je crois que tu avais quelque chose à dire.
Ouais.
À propos d'une série dont on avait parlé ici.
Voilà, Ghost in the Shell. Alors, on en avait parlé ici, hein,
de Standalone Complex.
De Standalone Complex. Et d'ailleurs, tu m'avais gracieusement prêté les DVD. Et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite après, a commencé la diffusion sur MCM. Diffusion journalière, hein, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, hein, la semaine prochaine c'est encore diffusé. Alors là, savoir s'il est diffusé en boucle, s'ils en arrivent à la fin de la saison, j'ai pas trop suivi. C'est tous les soirs à 20h sur MCM et il y a des fois les soirs des rediffs qui sont prévus un peu plus tard, vers 22h30, 22h45. Hein, Ghost in the Shell, donc c'est sur MCM.
Et puisque on parlait tout à l'heure de Dargo et aussi de manga et de leur collection Kana, une des séries qui marche le mieux au Japon et qui marche très bien en France, qui s'appelle Conan Metante, alias Détective Conan en France, est
souhaits.
En cours de diffusion donc sur France 3, ça passe à 17h. Je suis tombé dessus par hasard et c'est une merveille. Pourquoi ? Parce que c'est un whodunit qui a fait le coup. Ça faisait 2 ans que TF1 avait acheté les droits, ça avait été traduit, on nous disait oui, on va le passer, on va pas le passer, etc. Finalement, c'est France 3 qui le diffuse. C'est une série qui marche énormément au Japon. On parle du 9e film qui va sortir, je ne sais pas combien d'OAV, et donc plus de 9 saisons pour le dessin animé. Ça vaut le coup, et surtout, faut essayer de jouer avec, faut essayer de comprendre le raisonnement et de trouver comment on peut coincer le coupable.
Ouais, de toute façon, hein, parce que bon, il faut signaler quand même qu'on est en pleine vacances scolaires, et donc, les chaînes s'y mettent également avec des programmes allongés le matin et également des programmes l'après-midi, comme c'est le cas sur France 3, donc tous les jours pratiquement. Aux alentours de 16h35, hein, Jackson et Détective Conan.
Je peux juste faire une annonce, puisqu'on est écouté sur le net, au cas où, s'il y a quelqu'un à France 5, je sais pas ce que vous avez fait ce matin, vous avez passé la bande-annonce des dessins animés pour enfants, mais la bande-annonce de Noël dernier, vous êtes planté.
Ça arrive. C'est les stagiaires, il y a qu'un stagiaire ce week-end, les autres ils sont partis au ski, c'est pour ça. C'est les vacances, ça allait emmener les enfants au ski dans les Alpes, donc.
Tu peux parler stagiaire en télé, vu que voilà. Thomas n'est pas là. Vas-y, continue.
Voilà, bon, on va attaquer avec quelque chose qui vient. Je viens d'abord présenter un livre, mais enfin bon, parce que au détour d'une émission de télé qui n'a rien à voir en plus, hein, c'est plutôt un livre qui m'intéresse, de polar, de meurtre, de crime et de trucs comme ça, et ça a été présenté dans le magazine de la santé, hein, le magazine quotidien de la santé sur la 5, justement.
Ça. Qui est diffusé à midi, je crois, et rediffusé le soir vers 23h.
Ouais, voilà, donc dans cette émission, une fois par semaine, eh bien intervient le choix du libraire, hein, et c'est d'ailleurs le même mec qu'on voit également sur SCI, vous savez, un mec avec des lunettes chauves, avec une petite houppette comme ça, Zébulon.
C'est un allumé, c'est celui qui fout plein de... Si vous allez à Paris d'ailleurs, je crois qu'il met plein de petits post-it sur ses bouquins.
Voilà, c'est ça. Bon, ok. Et il a des fois des choix qui sont assez pertinents, moi je trouve, au niveau des bouquins. Et c'est le seul, justement, c'est un des seuls, hein, qui ne considère pas le polar et les dérivés du polar comme une sous-culture et comme une sous-littérature, hein, comme c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'autres.
C'est pas que de la littérature.
Et donc il a présenté ce bouquin, hein, parce que bon, ça a quand même rapport avec la médecine, hein, La ferme des corps, du docteur Bill Bass et de John Jefferson. La préface est de Patricia Cornwell, qui s'est beaucoup inspirée de lui et de ses travaux pour écrire ses livres. Et d'ailleurs, il y a un des livres de Patricia Cornwell qui est carrément consacré vraiment à son boulot, Bill Bass. Alors, c'est un mec qui, originellement, bien, n'a pas pratiqué la médecine légale, mais était anthropologue au départ, hein, c'est-à-dire qui cherchait des ossements, comme ça, paléontologue et anthropologue, donc, cherche des ossements, creuse des trous, hein, voilà, les archéologues, c'est ceux qui s'occupent des restes, et les anthropologues, c'est ceux qui s'occupent des os humains, spécifiquement, hein, qui sont enterrés. D'accord, on a bien compris la différence. Ok, et c'est au hasard, hein, de sa vie, parce que bon, il est quand même d'un état du sud, qu'il a commencé à assister à à une enquête médico-légale, à savoir essayer d'identifier une identification de cadavres, et ça a commencé à lui botter. Il s'est dit qu'à l'époque, bon, comme c'était dans les dans le début des années 60, à l'époque, eh bien, la médecine médico-légale n'existait pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de données scientifiques valables pour dire, ok, maintenant on parle d'ADN, de machin, de trucs du bidule, mais enfin bon, à l'époque, il y avait que dalle, hein. C'est tout juste si on savait différencier différents sangs, on arrivait même à se tromper au niveau des codes rhésus du sang à l'époque. C'est pour dire que bon, on a fait quand même beaucoup de progrès.
C'était des laboratins à l'époque qui n'avaient pas une forte spécification médicale, qui faisaient à la fois le relevé d'empreintes.
C'était des médecins. C'était les médecins du comté qui étaient spécialisés. On leur donnait un diplôme en plus. Ils avaient une petite formation complémentaire. Et puis bon, c'était eux qui faisaient office de médecin légiste. Hein, c'est comme ça aux États-Unis. Et lui, il a voulu pousser donc essayer de savoir, essayer de développer différentes données pour l'identification des corps, quel que soit le cas de figure. Il a expérimenté cela au fur et à mesure des années, hein, ça a duré quand même 25 ans, 30 ans, hein, il est maintenant à la retraite. Il a sorti ce livre qui est assez intéressant parce que bon, bah, à travers de nombreuses histoires vécues, hein, qui lui sont arrivées ou qui sont arrivées à de ses collègues ou à des gens qui l'a formé dans cette ferme des corps, eh bien, on arrive à se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de boulot qui a été fourni, et avec comme base, eh bien, les cadavres. Alors bon, bah, il y a aussi l'histoire comment il a pu se fournir des cadavres. On est dans le sud profond, donc il y a quand même des soupçons de morale qui restent. Comment on fait pour les cadavres et tout? Et alors comment on fait
en même temps?
Pour identifier des cadavres en les laissant pourrir? Alors donc c'est un livre. Il n'y a pas beaucoup d'images. Mais ce qu'il y a quand même au milieu, c'est la décomposition vue en gros plan au fur et à mesure. Ça, c'est le premier jour, tu vois. Alors là, je sais pas, on en est au 6e, 7e jour. Là, il y a plein de vers et tout. Et puis ça continue jusqu'au 15e jour. Hein. Le corps se met à gonfler. Tu vois bien. Hein. Et voilà.
Alors,
et ça termine par la dernière. La dernière, là, c'est le 12e jour. Hein. C'est-à-dire, il était en pleine nature. Donc, les asticots ont tout bouffé. Et puis, les autres insectes ont fait le reste.
Ah
voilà.
Oui, ça va relativement vite quand même. Hein.
Ça dépend. Alors justement, ça dépend. Dans la chaleur de l'été, en moins de 15 jours. Mais enfin bon, justement, il a étudié les différentes techniques. Bon, si le cadavre est enterré, si le cadavre est à la campagne, est en forêt. Enfin bon, tous ces cas de figure, justement. On fait partie d'une étude. Et à ce jour, il y a à peu près 500 à 600 corps qui donc ont été disposés un petit peu dans les endroits épars sur les nombreux hectares de cette ferme pour étudier justement les différents comportements.
Amis auditeurs qui n'avaient pas la couleur, vous avez de la chance parce que les photos sont vraiment peu ragoûtantes.
Non, mais je te le prête, tu auras le temps. Hein, de toute façon, c'est très intéressant. Et là, son premier cas d'ailleurs, hein, son premier cas en tant que médecin légiste authentifié, ça a été bien d'identifier les ossements du petit bébé Lindbergh.
Le kidnapping. Oui.
La veuve Hauptmann, c'est-à-dire le mec qui a été condamné pour et exécuté pour justement l'enlèvement du petit bébé Lindbergh, eh bien sa veuve a attendu 50 ans, hein, 50 ans carrément, pour pouvoir obtenir récupérer les preuves à conviction et pouvoir les faire analyser. C'est lui qui a analysé les preuves à conviction sans arriver à infirmer d'ailleurs ce qui avait été prouvé au départ, à savoir la culpabilité d'Hauptmann.
C'est l'histoire donc d'un kidnapping qui a frappé donc l'enfant unique de Charles Lindbergh, celui qui donc le premier a traversé l'Atlantique en avion.
Alors la boucle n'est pas encore bouclée parce qu'en fait ce bouquin on me l'a gracieusement offert et donc je l'ai dévoré bien entendu, et par le plus grand des hasards, eh bien sur une chaîne qui s'appelle Discovery, sur quoi suis-je tombé? Eh bien sur un sujet qui s'appelle justement à la poursuite, à la recherche de la science, un truc comme ça, et dont le sujet était justement la ferme des corps, avec en une heure expliqué avec moult détails et images bien entendu, hein, des différents intervenants. On voit Bill Bass, on voit pas mal, on voit moins, pas beaucoup Bill Bass parce qu'il est à la retraite maintenant, mais on voit beaucoup eh bien ceux qui l'ont succédé et ceux qui l'a formé. Et on les voit bien tout bien tâté. Regardez, là il est mou, pouch. Enfin bon, on détaille une espèce de technique qui va servir à pouvoir repérer des corps qui sont coulés dans le béton, hein, à pas faire la différence avec des appareils sonars très compliqués. Enfin bon, c'est très très intéressant pour ceux qui s'intéressent à ce genre de truc. Mais enfin bon, évidemment, c'est un petit peu gore, hein, c'est un petit peu trash. Il y a pas de problème parce que c'est vraiment très explicite. Voilà, on va revenir à la télé. Ça, c'est l'intro. Hein,
c'est l'intro. Et attends, il est 12h58.
Hein. Ouais. Et alors, on va revenir à la télé avec des trucs vachement plus légers quand même. Des inédits. Il va y en avoir à la télé cette semaine. Ça commence pas plus tard que cet après-midi, et c'est quand même cette semaine TF1 qui fait le forcing et qui a le gros lot hein, sur la diffusion d'inédits, cet après-midi, le pilote d'une série qui s'appelle Jane et Tarzan. Ça te fait rigoler? Non, c'est pas du tout rigolo, parce que Tarzan, il a été ramené à la ville, a été forcé, le pauvre Greystock, d'être ramené à la ville, et on lui a déjà un personnage, et pour que ce personnage soit intéressant et qu'il se passe quelque chose quand même dans cette série qui puisse la faire un petit peu démarrer, eh bien ce personnage féminin qui va être irrésistiblement attiré par lui, bien entendu,
est
flic. Comme ça pour pimenter un petit peu les petites histoires de cette série Jane et Tarzan.
Ça se passe dans quelle ville?
Et ça, je ne sais pas.
Parce que tu sais qu'il y a pas mal de villes aux États-Unis où la nudité c'est passible de prison. Hein.
Ouais. Non mais là, il va être habillé. Attention. Là, il va être habillé.
Oh, c'est pas drôle.
Attention. Sinon, on a également D'Artagnan, dont tu as certainement déjà entendu parler, avec Vincent Elbaz, avec Ariel Dombal, Chiqui Cario. C'est lundi à partir de 20h55. C'est également sur TF1. C'est la première partie lundi prochain. Et la deuxième partie, c'est lundi suivant. Il y a également une série qui redémarre, hein, une saison 2. C'est Witchblade, cette série fantastique.
Ah oui, inspirée du comics.
Inspirée du comics. Donc, c'est sur Série Club mercredi prochain à partir de 22h40. Alors, cette saison 2 n'a duré que 12 épisodes parce que Yancy Butler, qui joue le rôle principal de Witchblade, voilà. Avait quelques problèmes d'alcool et de drogue. Donc, ils attendent qu'elle sorte de cure pour pouvoir poursuivre la série, parce que au départ la première saison était un petit peu mitigée à son démarrage, mais la fin de la première saison a été vraiment très très bonne. Les fans ont dit bon, on en veut encore, parce que la chaîne voulait carrément annuler la diffusion, hein, ils voulaient arrêter, et il y a une deuxième saison donc qui a commencé à être tournée, mais il y a eu quelques petits problèmes, mais ils boostent quand même. Sinon, on peut également signaler que Boomtown, la série qui était auparavant diffusée très tard dimanche soir sur France 2, passe sur Canal Jimmy. Et en version originale, on y gagne au change, hein, comme ça, hein, à partir de 21h30 le dimanche. Donc vachement plus tôt. La série avec Neil McDonough, avec Donnie Wahlberg, qui est excellent, qui est avec Michael T. Williamson. Donc c'est sur Canal Jimmy demain soir à partir de 21h30. Et sinon, comme incunable, on va dire, ça c'est vraiment de l'incunable quand même, Law and Order, hein, New York District,
yes.
La saison 1. Alors ça c'est quand même vachement rare quand même de voir la saison 1, parce que c'est la saison avec George Junza qui joue le rôle de Grivet, qui est le partenaire de Chris Knott, c'est-à-dire de Logan. George Junza qui n'a tenu qu'une saison, la première, qui a été remplacé à la saison 2 par Paul Sorvino, le papa de Mia. Sorvino, d'accord, qui a été remplacé, Paul Sorvino, après la deuxième saison, par Jerry Orbach, Lenny Briscoe, qui vient de nous quitter il y a pas si longtemps que ça, il y a un mois et demi, donc le pauvre décédé à l'âge de 69 ans. Donc Jerry Orbach, donc qui a tenu, c'est lui le vétéran de la série en fait, puisqu'il a tenu jusqu'à la saison 14-15 là, qui est en cours de diffusion aux États-Unis. Sinon, c'est sur TF6, donc samedi ce soir. À partir de 22h30, il y a 3 épisodes. Donc ça, c'est l'incunable. Ça, c'est à regarder quand même. C'est la première saison qui date quand même de 90-91. Hein. Ça fait loin quand même. Sinon, un petit téléfilm qui peut être rigolo et qui a quand même un rapport direct avec une série, c'est K2000, la nouvelle arme.
Oh non.
Un téléfilm qui était, qu'on essayait de rebooster un petit peu, et puis on voulait voir si éventuellement une rediff de K2000, mais actualisée, allait marcher. Et donc on a tourné un petit pilote, un téléfilm. Donc c'est la K2000, la nouvelle arme, avec bien entendu Kit, David Hasselhoff.
Avec une nouvelle version de Kit qui plante souvent d'ailleurs.
Et Loubity et Loubity Junior. Et c'est supposé se passer en l'an 2000. D'accord. Donc alors que la première série, bon, va se passer de nos jours, quand la série a été diffusée, c'est-à-dire les années 80.
Ouais. Et David Hasselhoff a un peu vieilli. Hein,
j'ai déjà vu, et c'est assez marrant de voir comment ils imaginaient l'an 2000, c'est-à-dire 20 ans plus tard. Hein, juste comme ça, c'est très rigolo. Sinon, au niveau de la série qui dépote et dont c'est la fin, et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dommage, mais les bonnes choses ont toujours une fin, c'est Angel, la série Angel qui s'arrête, 5e saison, dernière saison, et vendredi prochain sur TF6, c'est les 4 derniers épisodes à ne pas louper. Donc, et un petit peu de ciné quand même, hein, si tu veux. On a le temps, de toute façon. Puis j'ai pas énormément de trucs en sport, hein, c'est pas la folie furieuse, hein,
attends,
de toute façon.
Tu as bientôt le tour de la destination et tout.
Non, mais j'avais oublié quand même, au niveau des inédits, jeudi prochain également sur TF1, Diane, femme flic, avec Isabelle Otero, Isabelle Otero qui est passée de la 2 à la 1, qui était dans La Crime, elle, à l'origine de cette série La Crime, sur France 2, tu sais, le vendredi, ouais. Polar du vendredi de France 2. Eh ben, elle est passée à l'ennemi, elle est passée sur TF1.
Ils auraient pu la foutre femme gendarme, hein, ça m'en semblerait plus logique, mais bon, pardon.
Le créneau est occupé. Le créneau est occupé. Alors que c'est vrai que femme flic, il n'y en avait pas trop, hein, par Julie Lescaut. C'est quand même la grosse concurrence, c'est le jeudi, hein, c'est le créneau de Julie Lescaut quand même. Mais enfin, il compte surtout sur le fait que ce soit un duo, hein, qui va animer un petit peu cette série, composée donc d'Isabelle Otero et de Laurent Gamelon. Il y a également Vanessa Gedge, et j'ai rien oublié sur ce coup-là, c'est bon. Sinon, quelques petites choses au niveau du ciné. Comédie qui vous propose une soirée Trey Parker et Matt Stone, c'est mercredi prochain, avec deux films déjà vus sur Comédie et même pas en VO, mais enfin bon, pour ceux qui les ont pas eus, ça vaut encore peut-être le coup. Le premier, c'est Basketball, hein, le film où il mélange les règles du baseball et du basketball. C'est tout et n'importe quoi. C'est quand même un David Zucker.
Du
baseball et du basketball. Il mélange les règles.
J'ai curieux de voir la taille
alors,
du ballon.
Alors, donc, avec Trey Parker et Matt Stone, c'est quand même un David Zucker, hein. Bon, c'est, ensuite, il y a un petit peu de South Park. Et ensuite, il y a Orgasmo, qui est un trauma, estampillé. Et qui est également un film de Trey Parker et Matt Stone, avec seulement Trey Parker, hein, quand même, où il débarque à Hollywood, il devient le roi du cinéma porno, alors que lui il est mormon et tout.
Oui, c'est pas permis, mais excellent, voilà. Ce film.
Excellent, très très bon. Donc c'est à 22h45 mardi prochain, pardon, sur Comédie. Et quand on parle de trauma, et ben ça vaut le coup, parce que Action nous propose, à partir de jeudi prochain, des petits documentaires. Il y en a une dizaine, hein, qui donc vont être diffusés hebdomadairement. Je sais que ça se dit pas, mais je le dis quand même. C'est à partir de jeudi prochain, 22h30, sur la chaîne Action. Documentaire d'une demi-heure sur le série B, sur les séries Z. Et qui inaugure la série ? Eh bien, c'est un documentaire sur les studios Trauma. Voilà, donc c'est jeudi prochain, donc sur la chaîne Action, à partir de 22h30. Et maintenant, du grand, du lourd, du tatoué, et du pas mal quand même, c'est le mois des Oscars sur la chaîne TCM, hein, Ciné Classique, et donc tous les soirs il y a un film qui a eu au moins un Oscar ou un prix ou un machin, un truc, un bidule. Ça commence lundi prochain, enfin il y en a tous les soirs, hein, même ce soir ou demain soir, mais enfin bon, lundi prochain, La Loi du Seigneur, un film de William Wyler de 56, Palme d'Or à Cannes en 56, avec Gary Cooper, Anthony Perkins, hein, deux Quakers opposés à la violence refusent de prendre les armes lorsqu'éclate la guerre de sécession. Hein. Mardi, ça continue avec un gros classique quand même, hein, et qui a été oscarisé, c'est vrai, on s'en souvient pas assez, mais enfin bon, à l'époque, des films fantastiques étaient oscarisés, Le Portrait de Dorian Gray, ça c'est gros classique.
Et il est beau en plus.
D'après le bouquin de Wilde, avec Herb Hatfield et George Sanders, qui est... j'ai rien à dire sur George Sanders, tellement il est excellent, ce mec. Donna Reed également, et Angela Lansbury, qui était toute jeune à l'époque, toute jeune à droite. Et en plus, elle était vraiment mignonne, hein, pas de problème. Hein, Angela Lansbury, qui a donné Arabesque. Hein, vous allez voir, c'est pas
avec
la même
quelques
chose.
Kilos en plus.
C'est pas la même chose du tout. Mercredi, ça continue avec un classique, Clout, de Pacula, avec Sutherland, Jane Fonda, qui a eu l'Oscar pour ce film, et Charles Cioffi. À jeudi, sur TCM toujours, un spécial Liz Taylor, avec un film pas trop connu mais qui a valu un Oscar à Mickey Rooney, c'est Grand National, le film de Clarence Brown de 44, hein, avec Liz Taylor et Mickey Rooney, Donald Crisp et Anne River. C'est une nana, Liz Taylor, hein, qui se met en tête de participer au Grand National, c'est une course de chevaux, hein, et qui est réservée au mec, et voilà. Et 22h55, encore Liz Taylor avec Qui a peur de Virginia Woolf de Mike Nichols de 66. Liz Taylor et son mari de l'époque, Richard Burton. George Segal, qu'on a pu voir dans une série dont je me souviens pas le nom, ça me fait chier parce que, qui était diffusée sur Teva. Il y a également Sandy Denis dans ce film. Vendredi, il y a encore du fantastique avec un très 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 vieux, très très vieux, non, pas si vieux que ça, c'est le Dr. Jekyll and Mr. Hyde. La meilleure version, c'est celle de Ruben Mamoulian de 31 avec Frédéric Marsh. Alors si vous ne connaissez pas Frédéric March, découvrez cet acteur, vraiment, il est assez bon. Il a eu l'Oscar pour ce Dr Jekyll, en compagnie de Rose Hobart. Et vendredi soir, c'est un spécial Virginia Mayo un petit peu plus tard sur Oscar, sur TCM. Parce que
sur Oscar.
Virginia Mayo nous a quittés il y a une semaine et demie. Oui, personne n'en a parlé, bande d'enfoirés, même pas moi la semaine dernière. Je suis désolé, excuse-moi Virginie, mais c'est pas grave. Virginia Mayo, donc un spécial vendredi prochain sur TCM avec, alors là, la tuerie totale. Deux tueries totales quand même. 22h55, La Flèche et le Flambeau de Jacques Turner de 50 avec Burt Lancaster et Virginia Mayo, bien sûr. 23h55, Virginia Mayo parle de James Cagney pendant 5 minutes. Alors là, déjà, ça vaut le coup. Suivi à minuit, et ça aussi, attendez, hein, quand on connaît un petit peu Cagney et Mayo. L'enfer est à lui, à savoir White Heat, le film de Raoul Walsh de 49 avec un Cagney qui est tout simplement au sommet de son art. Hein, si vous voulez voir d'un bon film de gangster hein, où il y a vraiment des mecs bien hystériques, James Cagney, vraiment excellent, hein, avec la réplique fameuse hein, au sommet des Mama. Enfin bon, bon voilà, donc, tout ça c'est vendredi prochain sur TCM. Voilà, et c'est tout pour la télé.
Et ben voilà, ben merci du sport. Vous écoutez Radio FMR, 13h, 9 minutes, 37 secondes, on va pas trop déborder. Juste pour dire que du sport donc va faire le tour de la régie pour prendre la suite. Pour les magazines du samedi avec, ça c'est du sport, jusqu'à 15h. 15h, y'a qu'à rouler, donc c'est du reggae. 17h, vie d'ordure, du punk. 18h30, Clark Nova, de la pop bien communiste. 20h, la Stetero Experience. 21h30, Liquid Sky. Et la journée sur FM1 se terminera à 23h avec Breakbeat Experience. Enfin, à mon avis, ce sera plus que la journée. Ce sera bonne nuit, bien foutue. Bien foutu, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Je veux dire tout simplement que ça va cartonner une bonne partie de la soirée. Ceci dit, nous on se retrouve samedi prochain à partir de midi en direct pour Supplément Week-end. Thomas sera de retour où il nous promet quand même du massacre à l'antenne. Ah, il se réveille le petit gars, c'est bien ça. Et vous pouvez écouter l'ensemble des programmes Supplément Week-end en différé, à télécharger tranquillement chez vous. Comme ça vous pouvez en profiter et réécouter attentivement tous les références et bouquins que l'on parle parfois un peu trop vite. Sur www.radio-fmr.net quand le lien sera mis sur le site, hein, merci s'il vous plaît. Et donc en attendant, ben on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, see you, bye bye. Profitez-en bien du week-end, il pleut un petit peu, mais bon, j'espère que ça va pas trop durer. Allez.
Radio FMR toujours. Un peu de sport à présent. On commencera par quelques faits divers. Ensuite en football, c'est la Coupe de France, les 16e de finale. On joue quelques matchs quand même en Ligue 2, en National, des matchs en retard. Ainsi qu'en CFA. À l'étranger, ça va, ça roule. On parlera également de basket, de boxe et de rugby. pense que tout ça nous fera arriver aux alentours de 13h, hein, y a pas de problème. 14h, pardon.
Sur ma bouche c'est de là que tout parle, sur ma bouche c'est de là que tout parle, sur ma bouche c'est de là que tout parle, sur sa bouche c'est de là que tout parle.
Avant d'aller chez les autres faire le ménage, balaye devant chez moi. Sur le pas de ma porte y'a un gros tas de gars qui ouvrent leur gueule grande.